Imagine-toi que c'est 450 000 tonnes d'oignons qui a été produit. 450 000 tonnes d'oignons. Et il n'y a pas de transformation. C'est juste à la vente. Et voilà un peu le problème qui est là. Donc, il y a nécessité d'avoir des industries agroalimentaires pour transformer.
Ich werde noch kurz den Gartenbau und den Obstbau erwähnen. Also in Senegal wird sehr viel Zwiebel, Kartoffel, Bananen, Mango produziert und das in allen Regionen. Aber manche Zonen produzieren besonders viel, zum Beispiel in der Zone von Niay werden sehr viele Zwiebeln produziert. Es waren, glaube ich, letztes Jahr 450.000 Tonnen Zwiebeln, aber es gab Szenen von Verschwendung, beziehungsweise Leute, die Kartoffeln und Zwiebeln auf die Straße geworfen haben, weil es einen Mangel an Konservierungssystemen gab oder beziehungsweise es gab keine Transformation der Rohstoffe und sie wurden dann schlecht. Deswegen ist eine Industrie gebraucht, die das organisiert und die Infrastruktur dafür organisiert.
Okay, Moustapha, par rapport à ça, parce que tu me parles même de conservation. Et puis, je vais rester avant tout même sur la production qu'on fait au Sénégal. Parce que le Sénégal, tu as raison, on produit de l'oignon, de la pomme de terre. Mais tantôt, je voyais des gens, tu l'as dit, il y avait des invendus à cause de la surproduction. Maintenant, malgré cela, il y a des personnes qui importent encore de l'oignon et de la pomme de terre. Mais comment ça peut s'expliquer? Au Sénégal, on produit de l'oignon, de la pomme de terre jusqu'à ce qu'il y ait des invendus. Mais en contrepartie, il y a aussi l'importation de l'oignon et de la pomme de terre. Ça continue toujours à avoir lieu. Donc, quel est le problème là-bas? Comment cela peut se produire? Et puis, par rapport à la conservation, parce que si on prend l'oignon et la pomme de terre, c'est des produits qui sont périssables. Et puis, que dans ces, comme en Afrique, il fait trop chaud. Donc là-bas, la conservation, ça peut avoir des difficultés. Mais l'idée en est que on pourrait seulement se lancer sur l'agro-industrie. L'agro-industrie qui peut nous aider à transformer les produits agricoles tels que surtout la pomme de terre. Ici, au Sénégal, il y a des produits à base de pomme de terre qui sont importés encore au Sénégal. Alors que c'est des produits transformés ici. Est-ce que cela, on ne pourrait pas avoir des unités de transformation comme les chips là que les enfants mangent le plus souvent. Et on voit aussi les poudres d'oignons. Les poudres d'oignons, oui. Je ne sais pas si c'est produit au Sénégal, mais beaucoup de gens, ils l'importent oui. aussi pour le Sénégal. La tomate, ainsi de suite.
Das sind wichtige Themen, die du gerade ansprichst. Das Thema der Konservierung, weil wir reden hier von Zwiebeln und Kartoffeln, das sind verderbliche Waren. Und ich sehe da ein Problem. Es gibt also Lagerüberhänge und eine Überproduktion an diesen Rohstoffen, aber trotzdem wird auch Zwiebel und Kartoffel importiert. Und eine Idee, denke ich, wäre, was wenn es eine Agrarindustrie hätte, die diese Produkte bzw. diese Rohstoffe transformiert innerhalb von Senegal, um den Import von Produkten wie zum Beispiel Zwiebelpulver oder Chips zu reduzieren, weil die werden sehr viel konsumiert.
Voilà, Ousmane, merci encore une fois. Donc, moi, je vais commencer par là où tu as terminé. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait aujourd'hui par rapport à la conservation? Tu sais, la conservation, elle est essentielle par rapport aux produits agricoles. Parce qu'en fait, la conservation vise à prévenir toutes les pertes, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout, par exemple, les 450 000 tonnes d'oignons qui ont été produits et qui ont fini sur la route, les voitures les ont écrasées, mais si on avait des tunnels de congélation, de conservation, donc ça n'allait pas avoir toutes ces pertes-là. Et que l'agriculteur qui a produit ne va pas jeter ces produits parce que en fait l'agriculteur n'a pas une autre solution. Donc il faut des centres de conservation qui ne sont pas chers, hein, qui ne sont pas chers. Maintenant, c'est des réfrigérants, c'est des congélations de chaleur ou de fraîcheur, des fois de séchage ou d'autres qui sont pour hydrater, pour que ça prenne de l'eau encore, ainsi de suite, et adapter. Donc, l'autre phase, c'est par rapport à l'agro-industrie. C'est-à-dire que produire beaucoup de pommes de terre, produire beaucoup de patates, la patate entre dans l'alimentation des enfants, l'alimentation des nourrissons, l'alimentation des personnes, de vieilles personnes. Donc, aujourd'hui, si l'agro-industrie, c'est-à-dire que si l'industrie était là pour transformer la patate, transformer la pomme de terre pour les chips, ainsi de suite, il y aurait pas de problème. Malheureusement, on ne met pas l'accent sur l'industrialisation. Et en retour, voilà un peu le problème. On importe de la pomme de terre. On produit de la pomme de terre et on importe de la pomme de terre.
Quel paradoxe.
Et on essaie d'équilibrer. C'est un paradoxe. On essaie d'équilibrer pour dire que la production, on attend que la production au niveau de l'Afrique et du Sénégal se termine pour permettre aux commerçants d'importer. Non, moi je pense qu'il faut une volonté politique pour régler ça.
Ja, ich denke, dass es unbedingt ein Konservierungssystem braucht, eine Verbesserung des Konservierungssystems. Das ist essentiell, um Verluste zu vermeiden und solche Situationen wie diese Tonnen von Zwiebeln auf der Straße zu vermeiden. Diese Konservierungssysteme sind auch günstig. Also ich denke, dass es einen politischen Impuls dafür braucht. Und in dem Fall von Zwiebeln, aber auch von Kartoffeln, das sind Produkte, die von allen jüngeren, älteren Menschen sehr viel konsumiert werden. Und die Kartoffel wird produziert, aber dann auch importiert. Und ich glaube, wenn Kartoffel direkt transformiert wäre innerhalb des Landes, gäbe es weniger Probleme von Verlusten. Man muss hier balancieren zwischen dem Import und dem Export und der Infrastrukturen innerhalb von Senegal.
Donc peut-être une dernière question, Moussa, pour cette partie, avant qu'on fasse une pause médicale. Mais le fait qu'il y ait importation de ces produits, cela signifie que les agriculteurs n'arrivent pas à produire suffisamment pour satisfaire les besoins alimentaires de la population ou bien grosso modo, donc ça veut dire qu'au Sénégal, ils n'ont pas encore atteint autosuffisance alimentaire dans le domaine de la production.
Aber zurück zu dieser Frage vom Import von manchen Produkten. Heißt es denn, dass die senegalesische Landwirtschaft nicht genügend produziert, um seine Bevölkerung zu ernähren?
Ousmane, ce n'est pas parce que c'est vrai, on n'a pas atteint l'autosuffisance en riz. On n'a pas atteint l'autosuffisance aussi en horticulture, c'est-à-dire que tout ce qui est pommes de terre, patates, etc. On ne l'a pas atteint, mais c'est pas parce qu'on ne l'a pas atteint qu'on ne peut pas l'atteindre.
Si.
En fait, voilà, on ne l'a pas atteint, c'est parce que on ne travaille pas pour l'atteindre. Pour travailler à l'atteindre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une chaîne de valeur et une chaîne de production et une chaîne de valeur qui va suivre. La chaîne de production, c'est mettre tout le monde au travail à la terre. Tout le monde se met à l'agriculture. Mais juste après, il faut que tout le monde aussi se mette à transformer et à conditionner et à vendre et à exporter. Maintenant, si dans un pays, les gens, certains font l'importation parce que c'est plus facile pour eux et d'autres produisent, et c'est plus difficile pour eux qui produisent, qui ne peuvent pas transformer et qui veulent vendre. Ce qu'il faut faire, c'est obliger les commerçants, les grands commerçants, les importateurs à aller acheter le produit national d'abord. Ne serait-ce que pour le vendre. Ne serait-ce que pour le vendre. Ne serait-ce que pour le vendre. Acheter la production nationale. Et si on achète la production nationale, maintenant, s'il y a un gap, donc, je pense que on peut aller s'ouvrir sur les autres pays. Mais je pense que si le Sénégal arrive à faire travailler tout le monde en agriculture et beaucoup en industrie, je pense qu'on n'aura même plus besoin d'aller ouvrir une fenêtre pour acheter à l'extérieur. Je pense que maintenant, vouloir régler le problème du commerçant et ne pas régler le problème de l'agriculteur, c'est ça qui se passe aujourd'hui en Afrique et au Sénégal.
Ja, heutzutage gibt es in Senegal keine Situation der Selbstversorgung im Bereich Gartenbau und auch in der Produktion von Reis. Aber das ist nicht unmöglich, das zu schaffen. Ich denke, dass es eine bestimmte Produktionskette braucht und eine bestimmte Wertschöpfungskette, um die geernteten Produkte direkt zu transformieren. Und vor allen Dingen, was ich sehr wichtig hier finde, ist eine Verpflichtung der Importeuren, also der Industriellen oder der Händler, lokale Ware zu kaufen, lokale Produkte, um sie, um dann zu einer Situation zu kommen, wo eigentlich Import nicht mehr nötig ist oder nur in einem Fall von Übermengen. Und ich glaube, etwas Wichtiges hier ist, dass die Händler wurden bevorzugt oder die großen Ketten, die großen Händler wurden priorisiert und die Landwirtschaftler vergessen.
Donc, merci donc de cette partie, donc, chers auditeurs de la Radio Corax. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est sur l'agro-industrie, particulièrement en Afrique. Donc, sans plus tarder, on va écouter une musique et on va faire une pause musicale, écouter la musique de Abdou Guitté Seck et revenir encore sur notre thème. Ça, cette troisième partie, on l'a même branché, c'est sur les problématiques. Mais avant tout, écoutons la musique de Abdou Guitté Seck.
Sope tonna no la tonja poki tonna no se soarna ton sunu domi suma no son comile ki khutbula wala mujatitla suma no son comile wali wala wala kisane suma no son comile wala ki ben Pan-Africain
Ok, merci chers auditeurs de la Radio Corax, donc de retour à notre émission.
Hi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind zurück, immer noch in der Sendung Common Voices auf Radio Corax. Und wie wir es immer sagen, wenn es wichtig ist, ist es auf Common Voices.
Et que nous ménagions aucun effort pour vous donner les informations nécessaires à temps réel.
Und wir geben uns Mühe, um sie zeitnah zu informieren.
Et ici, je suis toujours avec Moustapha, notre correspondant, le correspondant de Common Voices Radio depuis le Sénégal.
Und ich bin heute wieder mit Moustapha, unser Correspondent in Sénégal.
Et on est ici avec la belle Layla qui fait la traduction.
Und mit Layla, die, also ich übersetze.
Ok, donc, chers auditeurs,
comme on voulait. Mais Layla, mais Ousmane, Layla, est-ce qu'elle a bien traduit ce que tu as dit sur elle?
m'as eu, mais à chaque fois, je sais pas, après je suis timide un peu.
En tout cas, Moustapha est en train de demander si est-ce que Layla a tout traduit ce que je viens de dire, peut-être.
J'ai oublié l'adjectif, mais sinon l'info importante, elle était là.
Ok, donc elle a dit qu'elle a traduit l'essentiel.
J'ai traduit l'essentiel. Ouais.
Donc sans plus tarder, donc on va lancer on va faire écouter la troisième partie de notre émission. Là, on l'a presque branché. Ça parle des problématiques de l'agriculture.
In diesem dritten Teil von unserer Sendung werden wir über die Problematiken von der Landwirtschaft reden.
Et maintenant, si vous permettrez, dans les années 60, il y a Cheikh Amidou Kane qui se posait une question: est-ce que ce que nous avons atteint vaut mieux que ce que nous avons perdu? Si je retourne la question, depuis les années des réparations, si on prend maintenant cet espace de temps, on a perdu beaucoup. Qu'est-ce qu'on a perdu? Parce qu'on n'a pas eu à maîtriser notre propre marmite. Des importations tuent tous les pays africains et le Sénégal. Des milliards s'en vont pour donner du travail aux autres. Des milliards s'en vont à l'extérieur pour donner, je peux dire, de développement aux autres. Et nous, un bateau vient, on consomme, et maintenant, on est content et on s'arrête là. Et après, on emprunte l'argent, on amène des milliards à l'extérieur qui vont nourrir tous les autres pays. Ce n'est pas des rêves. Voilà. Et maintenant, les années 62, il y avait René Dumont, un visionnaire et prophète. C'est comme aujourd'hui, vraiment, je salue le président Ousmane Sonko. C'est un visionnaire, mais aussi, c'est plus que visionnaire. Il est prophète, parce que c'est une âme qui est là, qu'il faut sauver. Et il faut accélérer dans cela. Accélérer totalement. Et l'Afrique noire est mal partie. Le Sénégal est mal parti depuis la nuit des temps. Mais c'est pas que ce n'était pas conscient. C'était mal organisé. Et maintenant, si on vient dans la complexité de l'agriculture sénégalaise, nous avons toujours la question que je me posais ici: est-ce que le Sénégal est réellement un pays agricole? On verra. Et dans cela, 70% des Sénégalais sont dans le secteur agricole. Donc aujourd'hui, on n'aurait pas à parler uniquement l'aspect, oui, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la marmite? Le déficit alimentaire, la promiscuité. Si 70% s'occupent vraiment de l'agriculture. Mais il y a un problème. Ce n'est pas qu'on s'occupe de l'agriculture. Ici, le PIB, 18%. 70% un pays qui fonctionne l'agriculture est uniquement dans le produit intérieur brut, c'est combien? 18%. Donc il y a un décalage ici, vraiment, qui nous fait mal au cœur. Voilà. On vient. L'agriculture demande vraiment des jeunes prêts à aller. On ne prend pas des vieux pour développer l'agriculture. On ne prend pas des enfants. Ça, on est tous d'accord. Il faut des jeunes prêts à endosser. Tous les pays sont développés, c'est la classe de 20 ans à 50 ans, 50-55 ans. et le Sénégal à ces conditions. Totalement, ce sont des millions qui sont là, de jeunes. S'ils ne seront pas résorbés dans le secteur, ça sera un maillon difficile à atteindre. C'est une énergie. Tous les pays qui sont là, si on prend aujourd'hui la Pologne, une génération, en 25 ans, elle a atteint l'Union européenne. Mais les jeunes Polonais, je suis là, je suis témoin, comment ils travaillent dans ce secteur de l'agriculture, de transformation et tout. Ils font même aujourd'hui la peur des Allemands dans ce domaine. Ils font la peur des Français. Ils font la peur, même les Anglais même sont derrière les Polonais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette couche de population qui a cru en soi-même, qui s'est engagée, a fait qu'en une génération, c'est pas beaucoup. C'est pourquoi ici, le cap 25 ans, je crois fermement en cela. Il faut qu'on croit, ça va aller. Mais les jeunes ici doivent s'y ingérer, sinon les milliards seront là, ça sera difficile. Et voilà.
Das Thema des Beitrags war die Beherrschung der eigenen Lebensmittelproduktion eines Landes. Und der Experte erwähnt die 1960er, wo es viele Visionen gab, um den Prozess der Entwicklung von Senegal zu beschleunigen. Und es kam immer wieder zu dieser einen Frage, ist denn Senegal wirklich ein sogenanntes Agrarland? Weil 70% der Senegalesen sind Teil des landwirtschaftlichen Sektoren, aber Landwirtschaft ist nur 18% des Bruttoinlandsprodukt. Und diese Differenz, diese Diskrepanz ist das große Problem. Und hier wird auch Polen erwähnt, das wäre ein Gegenbeispiel. Von einer Situation, in dem in einer Generation die ganze Agrarindustrie sehr, sehr stark entwickelt hat und sehr viel Kapital dem Land gebracht hat und Arbeitsplätze.
Si, donc, chers auditeurs, on vient d'écouter ensemble cette interview que Leila vient nous traduire. Donc, ça fait en écoutant, ici on voit que ça reste beaucoup dans le domaine de l'agriculture sur tous les pays d'Afrique. Parce que quand je parle des pays d'Afrique, on a le même dénominateur commun. Ici, Moussa Baham nous parlait de la jeunesse. Même on l'avait oublié, Moustapha, sur les facteurs de production de l'agriculture. Tantôt, on a parlé du climat, des terres, de l'eau. Mais il y a la jeunesse aussi. Regarde ici, 110% de la population sénégalaise, c'est des jeunes. Et c'est vrai, l'agriculture, c'est la jeunesse qui le fait. Mais si on compare, il y a 18% que représente la part de l'agriculture sur la richesse de ce pays. Donc il y a un problème toujours, comme on l'avait dit. Parce que moi je pense que l'agriculture, comme tantôt on a l'habitude de le voir au Sénégal, il n'est pas vu comme un métier. L'agriculteur est vu comme quelqu'un qui s'active pour se nourrir ou nourrir sa famille. Et aussi, on a une vision qui est différente des pays occidentaux. Le plus souvent, l'agriculture est vue comme quelqu'un de pauvre. Raison pour laquelle ce qui décourage les jeunes à exercer ce métier. L'agriculture devait être pris comme un métier.
Eine wichtige Komponente hier ist die Jugend, die auf jeden Fall ein großes Teil der Produktionsfaktoren repräsentiert. Es ist die Jugend des Landes, die Erde kultiviert und Landwirtschaft macht. Aber wie gesagt, es gibt eine große Diskrepanz zwischen wie viele Leute beschäftigt sind und wie viel Reichtum erzeugt wird. Und es gibt auch die Tatsache, dass Landwirte oft angesehen werden wie Leute, die arm sind, also dass die nicht viel Geld machen können durch diese Aktivität.
Et puis sur ce domaine, je pense que ça manque de la politique de l'État. Hein, par rapport à ça, Moussa, peut-être c'est mon point de vue et tu as aussi d'autres arguments. Parce que l'État aussi doit prendre une bonne politique de l'agriculture. Mais tel n'est pas le cas. Le domaine de l'agriculture est marginalisé. Le plus souvent, il y a des ministères agriculteurs ils ne sont jamais sur le terrain. Ils ne savent même pas ce qui se passe sur le terrain. Ou bien c'est des politiciens qui sont mis à ces services, qui n'ont aucune idée ou aucune expérience sur le domaine de l'agriculture.
Und für mich ist das ein großes Symbol des politischen Versagens des Staates. Die Politiker äußern sich über diese Themen, aber waren nie vor Ort und haben keine Ahnung, wovon sie reden.
Oui, merci Leila, merci Ousmane. Donc Ousmane, il faut là qu'on parle de statistiques, c'est-à-dire que il y a une agence qui s'appelle l'ANDS, l'Agence nationale de la statistique au Sénégal, qui donne tout le temps des chiffres sur lesquels l'État doit s'appuyer pour planifier et amener des solutions par rapport aux problématiques du chômage et des jeunes. Par exemple, au Sénégal, nous avons 75% de la population qui ont moins de 35 ans. 75%
des jeunes
qui ont moins de 35 ans aujourd'hui au Sénégal, avec une moyenne d'âge de 19 ans. C'est-à-dire que tu as la fourchette de 19 à 35 ans qui sont 75% de la population. Et maintenant, il y a 42% qui ont moins de 15 ans.
Ouais.
Vous voyez un peu. Donc, tu as 15, 19 ans, 35 ans. Et au niveau africain, tu as à peu près 25 ans de moyenne d'âge sur 65% de la population ont moins de 25 ans en Afrique en général. 65% ont moins de 25 ans en Afrique. Vous voyez cette masse qui sont des bras valides, qui sont jeunes et qui doivent travailler.
Donc,
malheureusement, voilà une main d'œuvre très abondante.
Ouais.
Pendant que l'Europe est vieillissante, l'Afrique est très jeune. Maintenant, l'Afrique prend ces produits, les amène en Europe, les transforme et les ramène, alors que il y a des jeunes qui sont là, qui attendent de travailler. Malheureusement, donc il faut, comme tu dis, il y a une volonté politique, parce que l'ANDS ne produit les chiffres pas pour moi seulement, pas pour Ousmane seulement, ou Leila, ou la Radio Corax. C'est pour les informations de l'État. Et ça, il faut une volonté politique.
Ich werde jetzt ein paar Statistiken erwähnen. Die kommen vom Statistischen Amt ANDS. Die geben uns ein paar Zahlen. Also in Senegal ist 75% der Bevölkerung unter 35 Jahre und das Durchschnittsalter ist hier 19 Jahre. Und davon sind 42% unter 15 Jahre. Generell in Afrika, in afrikanischen Ländern, ist 75% der Bevölkerung, das Durchschnittsalter ist 25 Jahre. Also das Fazit hier ist, dass es ist eine sehr junge Population, sehr junge Bevölkerung, die auch eine reichliche Arbeitskraft ist, unter anderem, also das sind Leute, die arbeiten will, so gesagt, junge Leute, die Energie haben und arbeiten wollen, im Gegensatz zu Europa, die eher eine alternde Bevölkerung hat.
Maintenant, les chiffres, toujours sur les chiffres de l'ANDS, l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, donc qui donne que le chômage des jeunes est de 24 à 27%. C'est-à-dire que chaque année, tu as à peu près 200 000 à 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Chaque année. C'est-à-dire que sur 5 ans, tu as à peu près 18 000 jeunes qui attendent de travailler. Sur 10 ans, tu as pratiquement 1 800 000. Et vous voyez ce que ça fait. Donc, pour un mandat, par exemple, de Macky Sall qui est passé, 12 ans, ouais. tu as à peu près 2 millions de jeunes qui sont au chômage.
Actuellement.
Et si, s'il y a, oui, actuellement. Ouais. Actuellement, s'il y a des gens, s'il y a des jeunes qui ont travaillé, c'est à peu près moins de 50 000 jeunes. C'est... Maintenant, à ce niveau encore, on a 2024-2029. Déjà, les deux ans que le président Diomaye Faye a fait ici, donc, il y a à peu près 600 000 jeunes qui sont là, deux fois 300 000 jeunes qui attendent du travail, encore. Alors que l'agriculture est là et l'agro-industrie.
Pour pouvoir les absorber. Ouais.
Voilà.
Und nochmal eine Statistik, die uns von der ANDS kommt. Es gibt 4-27% Arbeitslosigkeit in der Jugend. Das sind in 12 Jahren... sind das 12 Millionen Jungen, die gerade arbeitslos sind, obwohl es eigentlich Sektoren gibt, wo es Arbeit geben würde oder wo die blühend sind, aber es gibt eine hohe Anzahl an Arbeitslosigkeit.
Donc, merci encore de cette argumentation. C'est ce qu'on voit toujours en Afrique. On a tout, mais ce qui nous manque, c'est seulement les bonnes décisions et les bons gouvernants. C'est ça qui nous manque actuellement. Donc, sans plus tarder, chers auditeurs de la Radio Corac, on va faire encore une petite pause musicale pour revenir encore sur notre thème et parler des pôles agricoles, pôles industriels.
Man sieht es wieder, dass was hier fehlt, sind gute Entscheidungen und politische Entscheidungen. Wir machen erstmal eine musikalische Pause.
Écoutez
ce souffle poétique.
Dans ce monde pathétique,
chronique et sans éthique.
Nous ne quittons une balade nuit d'un bout d'un gourd du fuck. A quoi qu'il lève de l'unioc. N'a pas quatre pieds, pas quatre becs, ça me quatre. Qui ne nous a pas de gueule, t'es du rente de gueule, t'as ramené.
Sous c'est le nom, à l'empire, c'est nous comme. Ça m'a le cousin d'homme.
Il est le quatre, nous bannons fait que d'homme.
Loxo bu deug reuy samp xalé yenn xol moy gungé souf mi ëmb sutures jaam mi ngi joy walu ñaaray bëré ñett sot la kon kay sot la ñi ne ci mbay mi nepp gi jamm gi ak bay dundé moy luñu war sa sunné ar leen moy ar sunu bop ar sunu jaam sunu wërgu yaram
deglu leen
nénañu ñoy yakaru rew mi
waye tay ñun lañuy xagn mew mi
ci suñu wajur la doré ñom ñi akki mo xew mi le tax rango ñu walankaan sar ci bir saw mi dal leen ak jamm ci tangor ak bekor dal leen ak jamm ci tangor ak bekor
ñun la
pollution ak effet sonore
ñun la
banexu kenn lor gangor
man la yow la ñom la ñun la
weyleleen ma senegal moy sunu dal nañ ko and jow bañ musu weyleleen ma faw ñu boole suñu doole luñu soñu mën ko dal.
Dites-moi qu'il reste encore un peu de beauté sur cette terre, car chez moi le lac apprend la langue du désert. La forêt se ratatine sous la hanche des progrès. Ils ont saigné les arbres, gratté leur peau pour en tirer la gomme. Alors la pluie se fait rare, les champs gardent le silence. Non pas repos, mais parce que les semences ont peur. On les importe de l'extérieur, une bataille qui ne produit que des récoltes de poussière. Mais écoute, si l'on replante l'arbre, si l'on protège la graine, si l'on soigne la terre comme une mère, alors peut-être, oui peut-être.
Adam, lu xew ba ku nek yem sa nopp ak sa bop, deru bu ki du julli, wante amna ñu ko gëna wool ko julli. Ku tok ak bur fatte sa morom, te ku tok ak sa morom jew bur. Na askan wek nguur gi tok, waxtaan li gën ci ñepp. Dolel bay dundé, jëmbat ngir dundé, alam bay sun kom. Kombay sun terang yakar kat mëna nekkal nakar.
Car ici on construit sans voir, on vend sans savoir. Jot nañu ubbi xel yi ñit bay kat bi sam kat bi napp kat bi ñu feral seen rangoñu
jikko ji ci yeen daf ma bet ile waral tay ma taxaw fent ndax musuma ko nané ndox ba diko gënt jikko ji ci yeen musuma ko nané ndox ba diko gënt dekké di xaraan
mo nu gënal
alal ji saraan
mo nu gënal jëndé ci nasaraan
cim yeena ñak jom de du seeni kom lor seeni dom
sa tub jur gi
ñun la
sa kub xor gi
man la
waw yow la
deet ñom la
jëndëg dëg
ñun la
wayleleen ma Senegal moy sunu dal nañ ko and ciow bañ musux wayleleen ma poñu bolé suñu dole luñu song ñu mën ko daal.
Donc, merci cette chanson de Leus Diwan, toujours qui est un chanteur sénégalais, mais c'est le thème là porte carrément sur le thème d'aujourd'hui, cette chanson, parce qu'il nous parlait seulement sur l'agriculture, donc la terre, la terre qu'on doit conserver pour mieux développer l'agriculture.
Diese Musik, die wir gerade gehört haben, ist wieder von dem Musiker Leus Diwan. Und das Thema von dieser Musik ist Erde, was heute zentral ist in unserem Gespräch über Agrarindustrie.
Donc, par là, je vais brancher une petite question par rapport à Moustapha, parce que c'est une réalité qui existe aussi. À savoir aussi au Sénégal, parce qu'il y a aussi l'immobilier. L'immobilier qui est un facteur menaçant par rapport aux surfaces agricoles. Parce que le Sénégal est un pays qui aime seulement la construction, construire des maisons. Même tu vois des personnes, des paysans qui ont des parties, des terres cultivables très riches. Mais à un moment donné, s'ils voient de l'argent, ils préfèrent vendre ces terres au détriment de l'agriculture au profit de l'immobilisation. Mais quelle année là-bas au Sénégal actuellement, Moustapha, par rapport à l'immobilisation et aussi le problème de foncier, surtout dans le domaine de l'agriculture.
Ich würde etwas erwähnen, dass eine andere Problematik, die Immobilienbranche, die wirklich die Landwirtschaft bedrohen kann, weil Immobilienindustrien geben zum Teil viel Geld den Landwirten, um ihre Erde zu verkaufen, und das machen sie zum Teil, und das ist ein, die Frage ist, warum oder wann dieses Phänomen angefangen hat.
Merci Ousmane, merci Leila, donc de cette pause musicale, mais aussi de la question et de la traduction. Mais avant de venir sur ce phénomène de la construction, des investissements sur l'immobilier seulement, c'est-à-dire que construire des immeubles et ne pas investir réellement sur des choses qui peuvent vraiment porter le Sénégal dans son développement ou dans la localité. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, Ousmane, il faut comprendre une chose aussi. Ouais. C'est-à-dire que par rapport à la formation des jeunes au Sénégal, il y a une limite aujourd'hui. La scolarisation, la formation, les écoles ont montré leurs limites pour répondre aux solutions des pays africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien que même à l'université, il y a les limites de la formation qui ne répondent pas aux solutions de l'Afrique, aux problématiques de l'Afrique, de l'agriculture, de la pêche et de la transformation. Je pense que d'abord, il faut qu'on essaie aussi de régler ce problème-là.
Zur Bildung, Schulbildung hat ihre Grenzen gezeigt. Es ist jetzt eine Tatsache, dass Universitätsbesuch und Bildung allgemein nicht alle Problematiken in Afrika lösen kann.
Voilà. Donc, maintenant, moi j'ai eu la chance de travailler avec un projet qui s'appelait le PEDIDAS. C'était le programme de l'agribusiness au Sénégal et qui avait un volet de volet foncier. Le volet foncier, c'était quoi en fait? c'est parce que ce programme-là a été financé par la Banque mondiale, parce que le problème du foncier existe chez l'agriculteur. L'agriculteur n'a pas de terre qui lui est propre, qui lui appartient et qui peut lui permettre de garantir cette terre pour avoir de l'argent et se financer sur des tracteurs, sur des moissonneuses, sur des sous-soleuses, etc. Donc, les terres, c'est des terres qui appartiennent à l'État, qui appartiennent à des familles qui se disent que c'est leur arrière-grand-père qui était là, qui ont gardé ces terres, qui ont travaillé les terres. Et quand ces arrière-parents et ces parents-là meurent, il y a les petits-enfants qui sont là, qui ne travaillent pas la terre et qui ne sont même pas dans la zone qui prennent ces terres-là en otage.
Ich hatte zum Beispiel das Glück, Teil eines Projekts zu sein. Es ging um Agrobusiness in Senegal. Und da war Grundstückbereich eine wichtige Dimension. Was wichtig ist hier zu wissen, ist, dass die meisten Landwirten, denen gehört das Grundstück nicht, sondern es gehört dem Staat. Oder es gab Situationen, wo das Grundstück den Großeltern gehört hat. Und wenn sie sterben, kommen dann andere Leute, die nicht Teil der Familie sind, und eignen sich dieses Grundstück an. Und das bringt Schwierigkeiten, Investitionen in Maschinerien zu machen zum Beispiel und generell die Landwirtschaft zu entwickeln.
C'est pourquoi la Banque mondiale avait financé donc le projet de développement inclusif et durable de l'agro-business au Sénégal et qui avait un volet de régularisation foncière. C'est-à-dire que ce volet-là permettait, dans un premier temps, de venir faire des enquêtes sur les terres pour les cartographier, pour faire des prélèvements avec la localisation, ainsi de suite, et maintenant leur faire des papiers avec le chef de village, avec les notables, avec les familles qui peuvent se séparer, parce que quand un papa meurt ou un grand-parent meurt, la terre, elle est là, on ne peut pas le séparer et personne ne peut garantir une partie ou toute la terre. Maintenant, ce projet-là est arrivé à pour régler ces problèmes. Et il y a et ça a fait pratiquement 10 ans. Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là. Et après, ce projet-là a fini. Et ce projet a réglé beaucoup de choses. Et il y a une chose, c'est les femmes. Les femmes n'acceptent pas à la terre parce qu'en fait, la succession selon nos religions ne permet pas aux femmes pratiquement de bénéficier de la terre.
Dieses Projekt, bei dem ich 10 Jahre gearbeitet habe, hat viel geändert, da es hat Förderung bekommen von der Weltbank, um nachhaltige Inklusion zu fördern und nachhaltige Inklusion im Bereich der Landwirtschaft. Was zustande kam, waren Ermittlungen zur Rückgabe von Eigentum von diesen Grundstücken. Und bestimmte Grundstücke wurden zu Familien zurückgegeben, die sie gebraucht haben für Landwirtschaft. Und ein anderes Problem ist da auch zu unseren Augen gekommen, dass es gab ein großes Problem, da Frauen nicht Eigentümer sein können von dem Grundstück, sogar wenn es ihnen eigentlich gehört oder ihren Vorfahren.
Et ce projet, le PDIDAS, quand c'est fini, il y a eu le PROCASEF. Le PROCASEF, c'est le programme cadastre et sécurisation foncière. Donc, pour dire qu'il y a nécessité de régler le problème foncier. Pour cultiver, il faut que toi, tu aies ton propre domaine, propriété, pour pouvoir cultiver Et si tu as besoin de garantir, acheter, tu garantis et tu achètes. Et le PROCASEF, le programme cadastre et sécurisation foncière, est une continuité pour régler le problème du foncier et de la sécurisation et de la régularisation foncière. Et maintenant, le PROCASEF, actuellement, ça continue, qui est le cadastre rural. Et il y a des bureaux fonciers. Les bureaux fonciers, c'est des bureaux qui renseignent sur si Ousmane est le propriétaire de cette parcelle ou c'est Mustapha qui est le propriétaire. Et il n'y a plus de litige pratiquement. Maintenant, il faut que les populations, les paysans, puissent quand même aussi aller vers ce projet-là pour quand même avoir leur propre terre et faire garantir et travailler en amenant l'eau, en bénéficiant de l'engrais de l'État gratuitement ou en subvention. Et ça, c'est les paysans, actuellement, c'est eux, la balle est dans le camp des paysans pour pouvoir quand même bénéficier de beaucoup de subventions et ça peut permettre de travailler la terre en grande partie.
Nach diesem Projekt, also in der Kontinuität von diesem Projekt, gab es ein anderes, das sogenannte PROCASEF. Und hier ging es um, war der Schwerpunkt Kataster und Sicherung von Grundstücken. Und das Ziel hier war, Garantien zu schaffen für die Landwirten bezüglich des Eigentums von ihrem Grundstück. Und das kam zustande und dazu gab es auch Förderungen und Subventionen für Düngemittel zum Beispiel. Also viele Sachen wurden gemacht, um den Landwirten entgegenzukommen.
Ok, Mustapha, peut-être.
Voilà, je vais terminer par l'immobilier. Parce que, par exemple, aujourd'hui, toutes les personnes qui sont à l'extérieur dans la diaspora n'investissent presque pas dans l'agriculture ou dans l'agro-industrie. Ils investissent dans l'immobilier, c'est-à-dire construire des immeubles. Ousmane va acheter une terre à Dakar. Il construit un rez-de-chaussée plus 10 étages. Au lieu d'aller vers sa localité serrée pour vraiment acheter une terre et faire travailler ses frères, ses sœurs pour qu'ils ne chôment plus. Alors que acheter un terrain à Dakar, construire un immeuble, tu as juste besoin d'un concierge tout court. Alors que quand tu vas à Fatick ou bien dans la zone serrée, tu auras au moins... Tu vas faire travailler au minimum 50 personnes.
Tu vas vraiment faire ça ou c'est un exemple? Hein? C'est un exemple ou tu vas faire ça?
Non, c'est un exemple.
C'est un exemple. Ok. Zurück zur Immobilien. Ja, da entsteht auch Probleme, wenn Menschen außerhalb der Diaspora auf einer bestimmten Art in Immobilien investieren. Und nicht die lokale, die Lokalitäten privilegiert. Also Mustapha hat da ein Beispiel genommen, als dass wenn Usman ganz woanders zum Beispiel ein Grundstück kaufen würde, also nicht da, wo er aufgewachsen ist und da auf einmal ein Grundstück kaufen würde und da ein Haus bauen, das wird nicht Sinn machen, weil da würden viel weniger Arbeitsplätze geschaffen werden oder es wäre so... Es wird keinen Sinn machen.
Ja. Et là, il a parfaitement raison. Le plus souvent de nos compatriotes émigrés, tout ce qu'ils construisent, c'est les maisons. Tout ce qu'on dit, c'est construire une maison. Parce que là, ils ont peur de faire des investissements. Alors que c'était l'idéal d'investir dans le pays, essayer de créer des emplois. Mais tel n'est pas le cas. La majeure partie, ils investissent dans le domaine de l'immobilisation. Et par rapport à Mustapha, je vais venir encore sur toi. Tu nous avais parlé des projets Procat et Cadas, qui ont fait de très grands efforts pour soutenir les agriculteurs. Mais ces projets, c'est des projets gouvernementaux ou bien c'est des ONG? Et quelle est la durée de leur existence?
Diese Projekte, die du erwähnt hast, die also den Landwirten geholfen haben, Sind das NGOs? Sind das Staatsprojekte? Was und wann? Wie lange waren diese Projekte aktiv?
Oui, Ousmane, pour parler de ces projets qui sont très, très, très intéressants, c'est des projets financés par la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est une filiale du Fonds monétaire international. D'accord? Donc, le Fonds monétaire international, aujourd'hui, qui a des problèmes pratiquement avec le Sénégal, avait validé certains financements pour au moins aller vers la sécurisation, la régularisation foncière. Donc, quand je parle du PEDIDAS, le projet de développement inclusif et durable de l'agribusiness au Sénégal, c'est un projet qui a été financé à hauteur de 43 milliards de francs CFA pendant au moins 9 ans, presque 10 ans. Donc, c'est un projet qui a travaillé sur la sécurisation foncière, sur l'accompagnement des paysans et par rapport à l'agriculture, mais aussi l'accompagnement des éleveurs. Parce que quand tu découpes des surfaces de terre, l'élevage ne peut plus passer pour aller vers les eaux. Les vaches, les moutons ne peuvent plus aller, ne peuvent plus se déplacer librement. Donc il fallait créer une culture fourragère, le marafalfa par exemple, qui a été initié par le PEDIDAS pour fixer les vaches, les moutons sur la culture fourragère. Et il y a aussi l'élevage, la pisciculture et l'aquaculture qui accompagnait aussi donc les pêcheurs, parce que dans les villages il y a des pêcheurs qui allaient en mer, qui allaient vers le fleuve et qu'ils ne peuvent plus presque se déplacer. Donc, on les aide à travailler avec l'aquaculture.
Diese Projekte wurden von der Weltbank finanziert. Also das ist eine Filiale vom IWF. Insgesamt wurden 43 Milliarden CFA-Franken während 9 Jahren investiert. Und das hat die Möglichkeit geschaffen für viele Hilfen für die Landwirten, was zum Beispiel Futterbau anging oder Fischzucht, Möglichkeiten für Transport und Mobilität, also wirklich eine Diversität an Hilfen.
Actuellement, le PROCASEF, qui est le programme cadastre et sécurisation foncière, se déroule actuellement et a été financé aussi à hauteur de 80 millions de dollars par la Banque mondiale. Donc, ce projet est très intéressant, Ousmane, parce que ça délivre des actes fonciers, ça crée aussi des bureaux fonciers, ça crée aussi, ça protège les investisseurs étrangers. C'est-à-dire que tu verras des investisseurs qui quittent l'Europe et qui viennent et qu'on leur donne des terres et qui cultivent au détriment et qui prennent les terres au détriment des riverains, des autochtones et des locaux. Et ce projet PROCASEF protège les populations autochtones. Contre les prédateurs, les investisseurs étrangers. Parce que les investisseurs étrangers, ils viennent, ils prennent 100 000, ils prennent 500 hectares, ils prennent 1000 hectares, comme Sénéguinia, comme SCL, comme GDS, les grands domaines du Sénégal, etc. etc. Et ils vont prendre les terres des populations. Maintenant, si les populations ont déjà quelques terres avec des papiers, ce n'est pas facile pour eux. On va leur donner une autre parcelle ou d'autres destinations et que ces populations ne bougent pas.
Zurück zu dem zweiten Projekt, das ich erwähnt habe, das PROCASEF, das zur Sicherung der Grundstücke unter anderem aktiv ist. Dieses Projekt ist immer noch aktuell und es hat bis jetzt 80 Millionen Dollar von der Weltbank bekommen als Subvention, als Finanzierung. Und dieses Projekt wurde zugunsten der einheimischen einheimischen Landwirten kreiert, da es Grundbuchungs, Grund pour Urkunden kreiert und stellt und das verhindert den Landerwerb durch Ausländer.
Voilà, je vais terminer par là. Je termine par là pour tout simplement que pour, voilà, une minute pour dire simplement que le PDDAS a travaillé sur 9 communes, sur 9 communes, c'est-à-dire que le PDDAS a travaillé sur 9 communes. Le PROCASEF travaille actuellement sur près de 200 communes. Vous voyez un peu, donc pour la régularisation foncière.
Und diese beiden Projekte, das haben zum Teil in 9 Gemeinden waren sie aktiv und PROCASEF ist in 200 Gemeinden aktiv.
Donc, merci, chers auditeurs de la Radio Corax. L'émission tire à sa fin. On avait beaucoup de parties à parler aussi. On voulait parler de ça, mais le temps nous est pris. Donc, on va laisser nos invités, Moustapha, dire son sa dernière parole. Et on va se quitter jusqu'à la prochaine fois.
Voilà, merci Ousmane. Merci Leïla, qu'on retrouve avec joie. Et une belle traduction, mashallah. Donc, j'espère qu'on va la retrouver prochainement. Merci Ousmane aussi du thème qui est très intéressant. Et il faut savoir aujourd'hui que l'Afrique doit travailler sur l'industrialisation, c'est-à-dire que travailler sur la transformation de ses produits au lieu de laisser les matières premières traverser toute l'Afrique. Aller vers l'Europe, et comme le chocolat, comme le cacao, revenir en chocolat, comme le sucre, comme bien des choses. Il y a aussi les minerais. Nous avons l'or, nous avons les diamants qui traversent l'Afrique et qui reviennent plus cher que nous l'avons produit. Merci Ousmane, merci toute la rédaction de Common Voices Radio. À bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Also danke an alle, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Corax. Danke für Ihre Aufmerksamkeit für das heutige Thema, was Agrarindustrie war. Bedanken an alle und Moustapha hat noch kurz etwas anderes erwähnt. Es ist auch die Produktion von Gold oder Diamanten, die auch eine große Rolle spielt und man könnte noch über viele Sachen reden, aber heute fehlt uns die Zeit. Also bis nächstes Mal.
Ok, chers auditeurs donc de la Radio Corax, à la prochaine fois sur les ondes de la Radio Corax 95.9.
Salam alaikum.
Bonjour.
Привет. Приходи до нас.
Come on, voices.
Uma que lembra.